لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مع فيديو on avait expliqué au centre-ville, c'est un petit signe de qiyamah. C'est un petit signe de qiyamah. Et un de ces signes a interpellé pas mal de gens. Donc, j'aimerais revenir là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient au centre-ville. Et ça, c'est un signe qui peut paraître amusant. Mais ce n'est pas. Ce n'est pas le cas. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que les meilleures communautés, c'est sa communauté. Ensuite, ceux qui viennent après. Ce hadith, on l'entend. Souvent, dans les khutbah, « Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ». On l'entend dans les khutbah. La suite du hadith, comme on l'a dit la dernière fois, ben en général, heureusement, on ne le dit pas sur le mimbar. Sinon, les premiers à être concernés, c'était les alim eux-mêmes. Rasam dit que, et à la fin des temps, les gens auront tel défaut. Ben, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas là où on veut en venir. Et Rasam a dit que ces gens-là, ils vont avoir une caractéristique, c'est qu'ils seront tous portants. Qu'à la fin des temps, les gens seront de plus en plus gros. Et le terme utilisé par le prophète, c'est yusmin. Ça vient de sa main, ça vient du mot gras. C'est-à-dire que les gens, ça, c'est pas costaud. C'est que les gens seront de plus en plus corpulents à la fin des temps. Et dans les commentaires des hadiths, les ulama expliquent que cela ne veut pas dire pour autant que si une personne est portante, c'est que c'est un péché. Non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont de nature portante. C'est-à-dire, c'est, si on utilise un terme, un peu plus récent, on dirait que c'est génétique. Mais à l'époque où le kitab a été expliqué, il n'y avait pas encore la connaissance de la génétique. Donc, ces ulama, ils expliquent, les hadiths disent qu'il y a des gens qui, c'est de leur nature, c'est héréditaire, d'avoir une forte corpulence. Même s'ils ne mangent pas beaucoup, ben, à un certain âge, ils vont avoir un certain poids, une certaine carrure. D'accord ? Elle dit, pour ces gens-là, il n'y a aucun problème. Parce que de la manière que le Prophète sallam explique, c'est péjoratif. C'est comme si que le Prophète sallam fait inkar, le Prophète sallam désapprouve que ces personnes, à la fin des temps, deviennent de plus en plus gros. Et les commentateurs disent, par contre, cela concerne la personne qui fait mubalagha fil akli wa shurb. At-tawsi'a fil akli wa shurb. Ceux qui mangent trop et qui boivent trop. Et qui, à cause de l'excès de consommation de nourriture, ils prennent du poids. Et dit que c'est de cela que parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça fait partie des petits signes de qiyamah. Alors on est, en général, on est, les moulissables, c'est plus, à l'exception de quelques-uns, où nous sommes concernés. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est un péché, mais on sait que d'une manière générale, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les sahaba radiallahu alayhi wa sallam, ils ne se rassasiaient jamais qu'à manger. Mais un sahaba qui disait, nahnu qawmun la na'kulu hatta naju' wa la. Quelque chose comme ça, je ne me souviens plus des termes. Elle dit, nous sommes un peuple, nous ne mangeons pas tant que nous n'avons pas faim. Ah ben, ils disent que nous ne mangeons pas tant que nous n'avons pas faim. Et lorsque nous mangeons, là, nous ne nous rassasions jamais. Ah ben, ils expliquent que quand est-ce qu'ils mangeaient? Quand ils avaient faim. Alors que de nos jours, on a des 4 heures, on a des encas, on a des 10 heures, tous les moments sont idéaux pour un casse-croûte. Zahaba, quand ils avaient faim, là ils mangeaient. Et lorsqu'ils mangeaient, ils ne mangeaient jamais à ventre plein. Alors que nous c'est le contraire. Elles disent, si nous on mange, c'est pour remplir le ventre. Si on est passé à table, il est inconcevable que quelqu'un passe à table sans qu'il en reçoive le ventre plein. Alhamdulillah, Allah nous a donné. Allah nous a donné, nous remercions Allah. C'est pas qu'il ne faut pas manger, mais le hadith prouve bien qu'il faut une certaine modération. Une certaine modération dans la consommation de nourriture, de boissons, etc. Et on sait que tout excès est nuisible. Tout excès est nuisible. Et un cardiologue d'aliments qui disait à un proche, quelqu'un de ma famille, qu'il a constaté que dans la communauté musulmane indienne, il y a beaucoup de problèmes cardiovasculaires. Une personne qui a opéré quelqu'un, un proche, il a dit que dans votre communauté, c'est chez les musulmans indiens, il y a beaucoup de cas. Et il dit qu'il a débouché les artères de telle personne. Ben, il y a peut-être quelque chose à revoir dans notre mode de consommation, dans ce que nous consommons concernant les lipides, hein, les huiles, etc. Parce que entretenir la santé, ça c'est amanat aussi. Parce que la tâche de Qiyamah demandera parmi les questions qu'il posera à l'être humain, Alam nasihu laka jismak, ne t'avons-nous pas donné un corps en pleine santé? Et on a déjà vu avec pas mal de hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déconseille aux sahabas de faire telle chose parce que c'est nuisible pour la santé. Il est conseillé de consommer du yen, du kalunji ou alors de telle chose pour leur santé parce que c'était bénéfique, etc. Dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit les dates parce que c'est un aliment complet. Pourquoi le prophète nous incite à manger un aliment complet? Quand on mange un aliment complet, c'est tout le corps qui bénéficie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de nuisible, c'est quelque chose de bénéfique pour l'organisme. Donc, l'âme d'un tofu moi-même en premier. Parce que je ne dis pas que ce que nous mangeons, c'est sain, mais c'était juste pour revenir sur ce petit point. Et subhanallah, le commentaire du hadith, ça on n'a pas osé le dire, on l'a oublié certainement. Il a dit que dans notre époque, c'était déjà à l'époque où il a commenté le hadith, il a dit, il parle des hommes, il dit certaines personnes, ils ont tellement des gros ventres, c'est comme si que c'est comme si c'était des gens qui étaient en voie de famille. Il y a dit certains hommes, ils ont tellement. Ça ne veut pas dire que c'est forcément pas bon. Et puis, je ne voulais pas dire, parce que sinon, il y en a qui se regardaient l'un à l'autre, et qui disent, on l'a vu, aussi, il est comme ça, etc. Vous voyez? Donc, ça nous fait comprendre que le prophète, il fait une cave. Pourquoi il fait une cave? Parce que l'excès de consommation, c'est. De un, c'est contraire aux autres. C'est contraire à la simplicité de la vie. Et puis, vous savez, si on remonte à l'époque des Mohadithis, subhanallah, ça c'était la ta'if que les Asatidans avaient. Expliquer que, qadrallah, on n'avait pas pris note, il reste juste des petits morceaux à l'esprit. Il avait dit que, vous savez, c'est assez complexe. Dans Ulum al-Hadith, il y a ce qu'on appelle al-Jarh wa al-Ta'dil. C'est les gens qui font le hukm sur les gens. Par exemple, il rapporte un hadith, lui rapporte un hadith, lui rapporte un hadith. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre les hadiths des trois personnes. Il y a des gens spécialistes qui vont analyser telle personne, voir le côté spirituel, leur fréquentation de la masjid, leur connaissance religieuse. Et autre chose, analyser le hikm. Pour être le hikm, est-ce que c'est des gens qui retiennent, qui ont une bonne mémoire? Et parmi les qualités du hafiz, c'est quelqu'un qui ne se répète pas. Pour ça, souvent, je dis, je ne me répète pas, je répète. C'est quand je dis une chose, de quoi, en général, c'est que je sais que j'ai déjà dit. Moi, si je répète, ça veut dire que, en donne l'âge aussi. T'as-t-il? Quand un hadith, il commence à répéter le même hadith deux fois dans un majlis, où il répète un hadith qu'il avait déjà dit une fois, là, il comprend qu'il commence à, sa mémoire commence à faiblir. Donc, ils font un hukm de celui-là, on ne peut plus prendre ses droits. Regardez comment notre dîne a été propagé avec d'une manière aussi active, comment c'était minutieux. Comment les ulama avaient des gens qui les supervisaient. Les grands riwayat du hadith, ils avaient des gens qui supervisaient, qui analysaient le riwayat et qui disaient, parfois ça venait après le décès, ils reprenaient leurs écrits et ils analysaient la chaîne de narration, est-ce que lui il a rencontré telle personne? Est-ce que dans la chaîne de narration, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas fiqah ou qui a une faiblesse de mémoire, etc., pour voir est-ce que la chaîne est solide ou la chaîne est bancale, il y a un arc. Et voilà. Et parmi les conditions, c'est ce qu'on appelle khawarim al-muru'a. C'est-à-dire, il considère également certaines choses qui ne faisaient pas forcément partie de la chariat. Ce ne sont pas des défauts, mais ce sont des choses qu'une personne peut faire. Ça peut être contraire aux mœurs de certains pays. Par exemple, il y avait un hadith, je ne me souviens plus, il dit que tel hadith dit que jamais il ne mangeait en public. Jamais il ne mangeait en public. Parce que pour lui, à ce niveau de ilm, à ce niveau de taqwa, à ce niveau, parce que vraiment, quand quelqu'un il est à ce degré de rapporter les hadiths, c'est le plus haut degré qu'il y a dans la religion, ça. Ça, c'est fort, ça. C'est pas comme nous, on plaisante, on raconte deux, trois histoires dans le livre et tout. Vraiment, nous, c'est rien du tout. Quand on parle de l'imam Bukhari, quand on parle d'imam muslim, Wallah, c'est un autre monde. Ça, c'est des galactiques. Ça, c'est plus que Chelsea, Real de Madrid. C'est plus que Milan. Ça, c'est comme si on compare à cette Marie qui a joué Coupe de France. Et c'est comme si on compare avec, je sais pas mal, c'est qui le plus grand club en ce moment. On dit que, je crois pas, c'est le même jeu, c'est le même ballon, c'est le même objectif, mais c'est deux mondes différents. Ils évoluent dans deux mondes différents. Nous, c'est pareil. Nous, on prend les kalams de ces ulama, on essaie de comprendre un pourcentage, on essaie de faire passer le message. Parce qu'à l'origine, ce sont les compagnons d'Imam Bukhari, de Muslim, d'Abu Daoud, d'An-Nasa, etc. C'est vraiment les piliers de la religion. Et à leur degré à eux, quoique de nos jours, ça peut paraître insignifiant. Mais pour eux, par exemple, manger en public, c'était haï. C'était pas quelque chose de faisable. C'est contre la bienséance, comme ils disent. Et ça aussi, les ulama de Jarh al-Ta'dil analysaient. Est-ce qu'ils ne font pas des choses qui sont un peu contraires aux bonnes manières? Ça aussi, ils analysaient. Et le khawar al-muru'a, ça peut être différent d'une culture à l'autre. Alors, un des muhaddis, il dit que, il dit ça, je veux vexer personne. Il a dit que parmi, il n'a jamais vu quelqu'un de très gros qui en même temps est intelligent. Il a dit, à part deux alim, il parle des muhaddis. Et à part tel mohadith et tel mohadith, il n'a pas croisé quelqu'un d'autre qui était pourtant et en même temps très, très vif d'esprit. Donc tu sais, pour les ulamas de l'époque, manger beaucoup, tout ça, c'était pas. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on aime beaucoup manger, on ne bouge pas quand il y a jour, on fait des repas pour nous spéciales, pendant que le peuple mange dalle gauche, nous, on a bien un niveau, etc. Je ne sais pas, est-ce que nous respectons ce que le prophète m'a dit concernant Al-Isra? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger bien. Non, il mange, mais toute seule, modération. Donc, tout, vous savez, quand la vie dit au Kadar et Kadjana, comme matin, on est au mat juste milieu. Et le juste milieu, c'est profitable tant de la vie spirituelle que de la vie de ce bas monde. Donc, toute chose, il faut avoir un juste milieu. Mais même dans les biens. Hein, il faut pas souhaiter vraiment la pauvreté, parce que par exemple, dit dans un hadith que la pauvreté, ça peut amener vers le couffre. Comment la pauvreté peut amener vers le couffre? Si une personne, il renie son sort, il dit, voilà, pourquoi moi? Pourquoi il est pauvre? Pourquoi il n'en a? Pourquoi il n'en a point? Vous êtes à la limite du couffre. Vous êtes en train de remettre en cause ce que Allah a décidé, taxer mon risque, le tarder. D'accord? Et la richesse peut mener au couffre également. Personne, si vraiment, elle se sent orgueilleuse, hautaine avec ses biens, ou elle délaisse les pratiques, elle délaisse, etc., ben, ça, c'est clair. D'accord? Une personne peut quitter le dîme par rapport à l'excès de biens qu'elle a, et elle finira par se sentir supérieure que ces choses-là, c'est pas les autres, c'est pas prêt. C'est pour ça que, subhanallah, le hadith dans lequel le prophète dit que, il explique comment Allah Ta'ala a départagé les biens. Que, pour certaines personnes, hadith, je sais pas si c'est dans le kitab ou dans notre kitab, inshallah, un jour on le lira, vraiment, un hadith, ça, vraiment, si quelqu'un comprend ce hadith, mais il fait un pas énorme, un pas gigantesque vers la compréhension du taqdir. Il fait un pas gigantesque vers la compréhension du taqdir. J'ai dit dans lequel le prophète dit, hadith authentique, dit que pour certaines personnes, Allah Ta'ala a décrété qu'elle sera riche. Et il n'y a que la richesse qui peut, qui s'y est, est-ce qu'il veut dire, c'est que la richesse qui peut aller, qui s'y est à cette personne, parce que si cette personne était pauvre, elle serait allée dans tel mauvais chemin. Et pour certaines personnes, Allah a décidé qu'elle sera pauvre. Et si Allah les avait donné les moyens, ils auraient fait telle chose comme péché, ils auraient pris le mauvais chemin. C'est-à-dire, Allah, il connaît que telle personne, la richesse serait un fitna pour elle. Donc, même si cette personne travaille du matin jusqu'au soir, il accumule les petits boulots, il fait tout ce qu'il... Il y a des gens, subhanallah, qui s'investissent beaucoup de leur travail, ils font des transactions, des petits business en dehors, mais ils n'ont pas par le cas de leur bien. Ils ne comprennent pas. Alors qu'il y a d'autres, je connais des gens, subhanallah, ils sont des gens vraiment exceptionnels. Et ils trouvent une voiture là, tel prix, ils revendent, ils font un bénéfice. Vraiment, c'est des gens, on dirait, ils gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Avec peu de travail. Ils peuvent rester chez eux, passer deux coups de fil, trois coups de fil, et ils se font votre salaire de 10 jours, 15 jours. Mais Allah a décidé que cette personne ait les moyens. Parce que vivre une situation modeste pour cette personne, ce serait difficile et dangereux pour son iman, et pour l'autre personne qui travaille beaucoup mais qui gagne peu. Si cette personne avait beaucoup d'argent, ça aurait été affiné. Un hadith qu'on avait lu dernièrement, Moufia, un hadith, on est en train de parler un peu d'ikhlas et d'énergie, parce que ça, wallah, on a tous besoin. Quel que soit notre degré, quelle que soit notre situation, on a besoin des hadiths d'ikhlas. Et en général, on se dit que, innama l'a'mal ou biniyat, ça c'est hadith, ça, tout le monde connaît. Et vraiment, lorsque vous lisez les hadiths sur ikhlas, et vous lisez les hadiths sur ar-riyal, l'ostentation, ils vous disent que ça fait quelque chose dans le cœur. Lorsqu'on lit les hadiths sur la sincérité, mais on se remet tous en question, parce que toutes les actions qu'on accomplit, on va être plus attentif. Est-ce qu'il n'y a pas un poisson que c'est pour quelqu'un d'autre, un poisson pour qu'on dise telle chose? Mais wallahi, à tous les niveaux, on finit par se remettre en question. Et dans ce hadith, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que, le hadith, il dit que pour la personne qui a les moyens, hein, et qu'une personne qui a les moyens et qui donne dans le chemin d'Allah, et une personne qui n'a pas les moyens en ce sens, hein, qui regarde, qui voit cette personne qui donne dans le chemin d'Allah, et il suffit qu'elle se dise intérieurement que, avec sincérité, que si j'avais autant de biens, si j'avais autant d'argent que lui, le moment, j'aurais fait autant. Quand quelqu'un il dépense dans ma vie, il donne le Coran, noir qui envoie à Madagascar, dans les pays pauvres, il aide, wallah, il donne beaucoup l'Illah, Sadaqa, Zaka, etc., il donne beaucoup dans le chemin d'Allah, et l'autre personne qui n'a pas les moyens, elle se dit, elle se fait la promesse que si j'avais autant de biens, j'aurais fait autant. C'est-à-dire, le niat est là, j'aurais aimé faire, mais je n'ai pas les moyens. Et le problème qui fait vraiment un peu d'adjri, ça va. Ils sont égaux auprès d'Allah en termes de récompense. Même si ce pauvre-là ne peut pas donner 10 000 euros dans ma masjid, mais quand il voit le riche donner, il se dit, si j'avais, j'aurais donné. Wallah, j'aurais donné. Et Allah, il connaît l'intérieur. Si quelqu'un dit ça comme ça, et si quelqu'un dit ça avec vraiment présence de cœur, subhanallah, c'est pas moi qui dis, c'est le prophète qui dit, et notre prophète il ne dit pas ça parce qu'il avait envie de le dire. Comment il y a un peu de temps, il voit là, il voit tout ce que le prophète dit, c'est wahi. Tous les hadiths la même récompense. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler le cœur, travailler la sincérité, travailler l'intention et montrer notre palabre, montrer à Allah qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour lui, même si on ne peut pas, mais j'aimerais le faire. Voyez. Donc là, on dit ça. On dit ça, oui, pour parler de la sincérité et voilà, c'est pour comprendre qu'il y a d'autres cas aussi. Hein. Là, on a parlé de la richesse et dans d'autres cas, il dit qu'une personne qui fait des choses haram, il fait des choses haram et que un autre musulman le voit faire ces choses haram, mais lui, il ne peut pas le faire. Il n'a pas les moyens. Il se dit que si j'avais la possibilité, j'aurais fait pareil. Si il m'était conduit, il n'aurait rien en boîte. Soit monsieur, ou TSA, soit tu m'étais conduit. Ah, mais c'est ça là pour le naïf, ce soir. J'entends parler un peu le naïf. Je vois des gens, vous connaissez ? Ils ne sont pas, ça, il ne faut pas les connaître. Pas. Alors, le hadith dit, là également, par exemple, Aji Sawa. Parce que la seule chose, et le ulama explique bien ce hadith, que la seule chose qui a empêché cette personne de faire ce guna, c'est le moyen physique. S'il avait la voiture, il serait allé. Mais c'est qu'il n'a pas de voiture, il ne peut pas y aller. Ou alors c'est quelqu'un qui devait emprunter la voiture à quelqu'un pour aller en boîte, et puis il dit, il n'a pas pu avoir la voiture ne démarre pas. Le péché est accordé. Parce que c'est le moyen qui n'y est pas. Autrement, le péché, il veut, il l'aurait fait, il regrette de ne pas l'avoir fait. Alors que, une différence, une personne qui voulait faire un péché, et qui après se ressaisit, Allah lui donne un hasana à la place de ce péché. Parce qu'il voulait faire ce péché, et puis il a eu la crainte d'Allah qui revient et dit non, je ne fais pas. Allah, bien sûr, le péché n'est pas inscrit. Allah lui donne hasana à la place de ce péché. Parce qu'il a eu envie de faire quelque chose de haram, et puis qu'est-ce qui l'a empêché? C'est le taqwa. La taqwa craint d'Allah, ce qui a fait que cette personne a délaissé cette idée, elle s'est abstenue d'encourir la colère d'Allah. Et ça, c'est fort, ça. Quelqu'un qui sait que si je fais ça, personne ne me voit, mais Allah sera en colère, je ne fais pas ça pour pas qu'Allah soit en colère. Ça, c'est au degré de taqwa. Ça fait le Sahaba, ça, on a déjà dit 40 fois. Je ne suis pas encore à cet âge où on n'accepte plus mes livres. Mais le Sahaba, lorsqu'ils allaient en voyage, ils allaient voir le Prophète sallam, et demandent le Prophète un conseil. Le Prophète ne disait pas, il y a 2 heures et demie, le Prophète disait quoi? Ittaqullah. Il pleurait. Le Prophète disait Ittaqullah et le Sahaba se met à pleurer. Parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est Ittaqullah. Ittaqullah, c'est quoi? C'est craindre Allah. Jamais ne te mets dans une situation où tu encours la colère d'Allah. Et ça veut dire tout, ça veut dire ne fais pas le haram. Et ne délaisse pas le défarage. Si quelqu'un délaisse ce qu'Allah a demandé, qu'il se met dans une situation où Allah a colère avec lui. Si quelqu'un fait quelque chose de haram, Allah sera en colère avec lui. Ça, c'est compensable. Alors, nous, combien de fois on entend taqwa? Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, tous les khutbas. Ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum, mais taqwa pour nous. Pour nous, on se dit qu'on a un kafni bien blanc, on a une barbe bien grande, on a une grande famille, on vient à masjid 5 fois par jour, mais qui vous dit que ces péchés-là, ces bonnes actions-là ne sont pas consumées yawmiyan? Jour après jour, qui nous dit que ces bonnes actions, que ces bonnes actions sont acceptées par Allah? Lorsqu'on connaît qu'Allah dit dans le Coran, n'a pas été par Allah, le muttaqin. Allah accepte des gens pieux. Lorsqu'on connaît Hazrat Umar ibn Khattab, il dit que si je savais qu'Allah avait accepté un sijda de toute ma vie de l'ibadat, alhamdulillah, je suis content. Et nous, on croit qu'on a tout fait là. On croit qu'on est blindé. Notre livre de compte, c'est prêt. On se sent à l'abri. On est sûr qu'on va entrer dans le jannat. On se sent supérieur. On a l'impression que ça, c'est ça, maintenant, là, ça dit comme ça, c'est fait pour nous. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Lorsque le prophète dit que la jalousie, ça consume les péchés, les bonnes actions, comme le feu consume le bois. On ne sait même pas, peut-être avec la jalousie qu'il y a dans notre cœur à l'encontre de notre prochain, à l'encontre de telle personne, le hasanat ne partient. Lorsqu'on sait que quelqu'un qui parle pas avec son prochain, plus de 3 jours, les amal ne montent pas. Et celle même plus, les amal ne montent pas. Combien de personnes dans les familles, ils écoutent ça. Ah, il y a tellement de péchés que Shaitan nous fait accomplir, mais les conséquences sont tellement lourdes. Une personne qui désobéit à ses parents. On connaît l'histoire d'Ashab al-Araf. On a déjà expliqué ça aussi. Ils sont morts, ils ont donné leur vie pour Allah. Le jannat, le jahannam est haram. Le jahannam, il ne prend pas. Il ne peut pas prendre les corps qui se sont sacrifiés pour Allah. Mais le jannat aussi n'en veut pas. Ils sont morts sans, avec mécontentement de leurs parents. Et ils restent dans une situation intermédiaire pendant longtemps. Al-Araf, il a déjà mis à l'écoute la coulam. Désobéissance des parents. Allah, qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous pardonne parce qu'on ne sait pas, hein, personne ne peut se dire que moi je suis sauvé, moi je suis dans le bon chemin, moi. On fait nos efforts et puis Allah il accepte. Hein, le voisin me dit que personne n'accédera au paradis par ses actions. C'est que par la rahmat d'Allah, que par la pitié d'Allah. Si Allah n'a pas pitié de nous, là, Allah ne va pas loin. Si Allah n'a pas pitié de nous, on ne va pas loin. Ça a été, je ne sais pas, Tabirin disait que si les Sahaba ils nous voyaient, ils croyaient qu'on était des cas. Si Tabirin nous parle. Et que si les Sahaba nous voyaient, eux, les Tabiri, ils croiraient qu'ils étaient des kafirs. Qu'est-ce qu'on fait? Allah, il y a de l'âme par là. On demande à Allah de nous pardonner, c'est tout. C'est pas ça que je dis, c'est important, parce qu'on s'assoit, que ce soit là, que ce soit un jeu d'histoire, n'importe quand, on s'assoit, on écoute un petit peu, et on sait qu'il y a des anges qui viennent et qui demandent pardon, et que nos péchés sont pardonnés. Là, tu n'as pas retenu beaucoup de choses, mais on a, là, on ressort le gouna et pardonné. On aura yakin, je suis bien sûr. Alhamdulillah, on remercie Allah. On revient un petit peu sur, on ne sait pas où est-ce qu'on était, on s'était arrêté la dernière fois, mais bon, on va aller un petit peu plus vite, Inch'Allah. On était en train de parler, encore, Inch'Allah, 5 minutes, 10 minutes, 9h10, ça s'arrête, Inch'Allah. On parlait un peu des. Oui, comment Allah Ta'ala remettra le livre de compte à chaque personne le jour de Qiyamah. Alors on commence par un hadith qui explique que le jour de Qiyamah, les gens depuis le début de la résurrection, ils ont une crainte. Ils ont une crainte. Et cette crainte c'est quoi? Ils savent que les livres de compte vont être remis et donc ça préoccupe les gens. Le hadith de Umm Salam anha qala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul yahduru an-nas yawm al-qiyamati 'uratan hufata. فقالت أم سلمة قلت يا رسول الله وسوءتاه ينظر بعضهم إلى بعض فقال شغل الناس قلت ما شغلهم قال نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل ده الحديث أم سلمة رضي الله عنها il entend que le prophète صلى الله عليه وسلم avait dit que le jour de Qiyamah les gens seront ressuscités nus et que les hommes ne seront pas circoncis pas et sans chaussures et etc. Et Umm Salama a demandé, oh prophète d'Allah, comment cela se fait-il? Nos awras, notre satar, les gens ils vont voir. Regardez le haya des sahabiyyat. Haya, la pudeur. Même dans une situation comme ça, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la pudeur. Les gens ils vont voir notre corps comment est. Nos joueurs, est-ce que cette notion de haya existe encore? Il y a quelques années au remonte, nos générations, quand on était encore au je le sais, on ne voyait pas les filles s'habiller comme ça, les filles musulmanes. Nos joueurs, hadith wala haraj. Nos joueurs, c'est la vie. فقال شغل الناس الى الفسلم دي que les gens ne penseront même pas se regarder mutuellement. On peut se poser la question, jour de Qiyamah, on va retrouver nos parents qui sont décédés, on va retrouver nos grands-parents, quelqu'un dont l'épouse est décédée il y a 15 ans, 20 ans, il retrouve son épouse, il retrouve ses enfants. Pourquoi c'est pas un moment de joie? Là, il n'y a pas de joie là. Pourquoi ça me dit qu'en ce joie là, personne ne se regardera mutuellement? Mais sur l'homme, on me dit, oh prophète d'Allah, qu'est-ce qui va les préoccuper? Pourquoi ça me dit, c'est pas. Il y a bien sûr les ahwal, la chaleur, etc. Le prophète me dit, nashru sahaif. Ce qui va fatiguer les gens, c'est ces livres de compte qui sont en train d'être étalés. Et les gens, ils voient qu'il y a mataqil al-dharri ou mataqil al-khardal, qu'il y a les actions de la taille d'un grain de maïs et les actions de la taille d'une graine de moutarde. Ils voient que les actions, même ce qui peut paraître minime, ils voient que ces actions-là aussi sont là. Et donc là, les gens, ils rendent ça ficar terré. Incroyable. C'est comme si une personne n'a pas été à jour de ses comptes et tout d'un coup il y a un contrôle fiscal. Et là il voit l'huissier, je ne sais pas ce qu'il vient, l'huissier qui vient, il commence à faire les comptes et là il se dit, telle affaire n'est pas déclarée, telle chose, il a oublié de dire. Et là il revoit les hissas de 2 ans, 3 ans, 4 ans et il sait qu'il va ramasser le gros lot. Et là c'est pire, là c'est le péché d'une vie, c'est le péché de 50 ans, le péché de 60 ans. Également, oui, deuxième chose, les ulama ils expliquent que ces livrets de compte, le jour de Qiyamah, où est-ce qu'ils seront? Ces livrets de compte, les ulama expliquent dans un hadith de Anas radiallahu anhu, alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qal, al-kutubu kulluha tahta al-arsh, fa'idha kana yawm al-qiyamah, yab'athu Allahu rihan, fatatiruha bil-aymani wal-shama'il, awwala khattun fiha iqra' kitabak, kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba. Rasam dit que les livres de compte sont tous sous le arche, sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le jour de Qiyamah, Allah ta'ala enverra un vent et les livres seront dispersés et remis et ils tomberont dans les mains de des personnes différentes manières. Selon différentes manières, les gens auront le livre le jour de Qiyamah, mais jusqu'au Qiyamah, les livres seront et sont sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, le jour de Qiyamah, chaque personne, et comme on l'avait déjà expliqué la dernière fois, ceux qui prennent de la main droite, ceux qui prennent de la main gauche derrière le dos, ils vont prendre selon leur ahwal, selon leur situation, et le hisab commencera, et ils liront, ça on l'avait déjà expliqué, que eux-mêmes, ils vont lire le livre. Ils vont lire, chacun va lire le livre. Alors, dans un hadith également, dans un hadith de Abu Dhabi, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, voilà. Et lorsque les gens auront le livre, Allah Ta'ala va les appeler. Innakum tud'auna yawm al-qiyamati bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum. Regardez la situation, comment elle sera. C'est-à-dire, ce sera du cas par cas. Dans le qiyamah, Allah Ta'ala appellera chaque personne
le nom wa asma et abaikum, par le nom et le nom de leur père. Par exemple, Mohammed, fils de Abdullah. Cette personne est appelée et convoquée auprès d'Allah. Vous vous rendez compte? Chaque personne sera appelée, on va voir toutes les personnes qu'on connaît, toutes les personnes, les Asiatiques, les Africains, les Romains, les Grecs, toutes les personnes qui ont existé, ils vont être appelées un par un, par le nom et le nom de leur père. Alors imaginez combien de temps les hisab va durer. Combien de temps les hisab va durer? Pendant tous les hisab, il y aura le soleil à cette hauteur, sauf pour ceux qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, et ou alors pour ceux qui, dès que le hisab a commencé, ils auront été choisis pour rentrer dans le jannat, virer le hisab Allah ta'ala. Et à la fin du hadith, le samedi, fa'ahsinou asma'akum, ça on pourrait le citer en parenthèse, hein, parce que ce n'est pas le mot droit, le sujet, le prophète dit donc, donnez de bons noms. Donc, donnez à vos enfants hein, des beaux noms. Parce que le jour de Yama, chaque personne sera appelée par son nom devant le tribunal d'Allah, donc il faut avoir des bons noms. Alors, un petit masla, il y a certaines personnes qui ont posé cette question, est-ce qu'on a le droit d'appeler une personne par un petit nom? À la réunion, il y a un petit nom gâté, en arabe, c'est un laqab, d'accord? Et le ulama explique que tant que ce n'est pas péjoratif, tant que ce n'est pas quelque chose qui vexe la personne, il n'y a pas de problème. Dans cette alaywa, il est même dit que le prophète appelait Aïcha Ba'anha, il l'appelait Aïch, c'est-à-dire en enlevant la dernière lettre. C'est un signe de muhabbat, il n'y a aucun problème, tant que cela n'est pas péjoratif. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est lorsqu'on a un nom composé, qui commence par Abd, et qui le deuxième nom, c'est un des sifats, un des noms d'Allah. Par exemple, quelqu'un s'appelle Abdelaziz. On n'a pas le droit de l'appeler Aziz, non. Parce que Abdelaziz, c'est le serviteur du Aziz, et Aziz, c'est un des noms d'Allah. Donc, on n'a pas le droit d'appeler quelqu'un Aziz. D'accord? C'est comme si que quelqu'un s'appelle Abdullah, on va l'appeler Allah, jamais. Vous serez malade. Mais là, c'est pareil, ça c'est un des noms d'Allah. Par exemple, c'est pas ma Abdul. Un autre nom. Abdul. Je ne sais pas quel nom. Ce qu'on entend souvent, hein, Aziz est là, Aziz, non, en fait, si vous regardez, ça s'appelle Abdelaziz. Il ne faut jamais appeler quelqu'un qui a un nom composé de le mot Abd, ensuite avec un sifat d'Allah, Aziz. Juste le deuxième nom, en supprimant l'Abd, non. Parce que Abd, ça veut dire le serviteur d'eux. D'accord? Donc, ça c'était une petite parenthèse. Donc, le hadith, pour ça, nous fait bien comprendre que chaque personne sera appelée auprès du tribunal d'Allah avec son livret, et Allah Ta'ala va le faire reconnaître. Hein, chaque action qui est écrite, et Allah va te poser des questions pour chacune de ces actions. Et dans un hadith également, As-Subir al-An, fil aya, قال, à propos du ayat Ta'irahu fi 'unqi, il a dit que Al-Kafiru yukhraj lahu yawm al-qiyamati kitab, fayaqul Rabbi, innaka qad qadayta annaka lasta bi dhallami lil-'abid, faj'alni uhasibu nafsi. فَيُقَالْ اِقْرَمْ كِتَابَ الْكَفَابِ نَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ عَزِيبًا. Que le kafir, le jour de Qiyamah, il aura son livre de compte. Il sait, là, il a peur. Et il va dire, oh Allah, c'est toi-même qui as dit que tu ne fais zulm sur personne, que jamais tu ne fais oppression sur un de tes serviteurs. Et il va dire, oh Allah, j'aimerais que c'est moi-même qui me juge. J'aimerais que c'est moi-même qui fasse mon hisab. Et il le fera. Allah accordera la possibilité à chaque personne de lire personnellement son livre de compte afin que qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas été lésés. Qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas été lésés, que c'est uniquement ceux qu'ils ont écrit qui vont. Et qu'Allah, Allah fera en sorte qu'on se souviendra de la totalité de nos actions. Comme l'avait déjà expliqué, si on nous demande quelle bonne action on a fait il y a 2 ans et demi, ou tel péché que vous avez fait il y a 5 ans, on a oublié. Mais les anges n'oublient pas. Et Allah, bien sûr, n'oublie pas. Et le jour de Qiyamah, par contre, on se souviendra. Parce qu'on a vu le cas de certaines personnes qui vont voir des montagnes de hasanat. Et ils ont dit, Allah, ces hasanat-là ne m'appartiennent pas. Et Allah Ta'ala va lui dire que non, ça c'est les du'as que tu as demandé sur cette terre, qui n'ont pas été exaucés, qu'on te les a accordés en compensation, tu les as accordés des bonnes actions. Et la personne sera tellement heureuse qu'elle aura le tamanna que jamais Allah n'eut accepté un de ses du'as afin qu'il les retrouve tous en forme de hasanat. Que ce soit les péchés, que ce soit les bonnes actions, on se souviendra de toute la vie qu'on a passée dans ces a'mal, bonnes ou mauvaises. Et il dit également que même une personne qui est aveugle, on peut se dire, alors ça c'est une question des enfants madrasa, hein, quand on dit que dans la tombe, on va demander « Mandrapuka, Mandinuka, etc. » Il dit « Moussa, ben, nous c'est pas arabe, c'est tranquille. »« Me comprendo. » Les gens « me comprendo, comprend pas arabe. » D'accord? Non, c'est pas comme ça. Allah fait en sorte que chaque personne comprend. De même que lorsque Dajjal viendra, hein, le hadith m'avait expliqué que même la personne qui est illettrée, si Allah lui donne tawfiq, il pourra lire le mot kafira, Kafara sur le front de l'État. Même si cette personne est illettrée. Et même si c'est un musulman chinois ou un musulman d'Afrique ou d'un autre pays qui n'est pas du tout arabophone, Allah fait en sorte, et qui ne connaît même pas lire le Coran, si elle a iman, Allah veut le protéger, Allah fait en sorte que cette personne pourra reconnaître. Et ça, on voit que ça fait partie de l'ilmul ghaib. On comprend que ce qu'Allah veut, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Ce n'est pas parce que je n'ai pas appris l'arabe que je ne vais pas comprendre ce que les anges vont me dire. Non, Allah veut que la langue de la tombe soit l'arabe. Que vous connaissez ou vous ne connaissez pas l'arabe, vous comprendrez. Alors que la logique humaine, c'est quoi? Pour comprendre un discours, il faut savoir déchiffrer le message, il faut comprendre la langue. Si quelqu'un parle une langue étrangère, c'est logique, on ne comprend pas. Mais ça, c'est la petite logique humaine. Ça, c'est un exemple pour nous faire comprendre c'est quoi la logique humaine et c'est quoi Allah, ce qu'Allah veut. C'est qu'on ne fait rien, Allah veut que vous comprenez. Allah veut que le jour de Qiyamah, vous êtes déjà, vous êtes déjà. C'est Allah qui décide et il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Donc, la personne, le jour de Qiyamah, qui ne sait pas lire et qui ne sait pas lire l'arabe, qu'est-ce qu'il va dire? Allah fait en sorte que cette personne également comprenne, qadada radallahu anhu, il commande le ayat, iqra kitabak, qal, sayaqra'u yawma idin, man lam yakun qari'an fi dunya. Que la personne, même si une personne ne savait pas lire, dans ce dunya, Allah Ta'ala fera en sorte que cette personne puisse lire ce qu'il y a écrit dans son livre de compte. Et on finira avec un hadith poignant, vraiment, dans lequel le Prophète sallallahu alayhi wa sallam explique dans quelles circonstances personne ne connaîtra son prochain. Un hadith de Aisha radhiyallahu anha. On va lire un hadith en arabe, excusez-moi, c'est très très pesant comme hadith. قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ أو قفت الله عائشة demande est-ce que le Habib reconnaîtra son bien-aimé, ces gens qui s'aimaient, est-ce qu'il reconnaîtra son prochain le jour de Qiyamah? Alors le dit يا عائشة أما عند ثلاث فلق. Je dis oh عائشة, dans trois circonstances jamais. Et jamais les personnes ne se reconnaîtront, même si vous aviez le plus de muhabbat avec cette personne. Personne ne se reconnaîtra, personne ne donnera l'intérêt pour son prochain dans trois circonstances. Amma inda al-mizan hatta yathqul aw yaqif fala. C'est-à-dire, premièrement, au niveau du mizan, de la balance. Tant que la personne ne verra pas de ses yeux que la balance est lourde en bonne action ou alors elle est lourde en péché, tant qu'elle ne voit pas que la balance, puis il y a d'autres manières, tant qu'elle ne voit pas que la balance est lourde ou légère, personne ne connaîtra son prochain. Même si vous avez votre épouse qui est là, votre papa, votre mère, votre fils qui est là, à côté, pas loin de vous, au niveau du mizan, tant que vous ne voyez pas le natija, le résultat de la pesée des actions, vous ne connaîtrez pas cette personne. Deuxième situation, وَأَمَّا عِنْدَكَ طَاجِرِ الْكُتُبِ فَإِمَّا أَنْ يُعْطَى بِيَمِينِهِ أَوْ يُعْطَى بِشِمَالِهِ فَلَا. Deuxième circonstance, c'est lorsque les livres seront remis. Tant que la personne ne récupérera pas son livre de la main droite, ou elle ne verra pas que le livre lui est donné, malheureusement, son arrière de la main gauche, personne ne connaîtra son prochain. Même si vous avez, pareil, ses proches à côté de vous, tant que vous ne voyez pas comment votre livre vous est remis, là où vous n'adressez pas la parole, vous ne regardez pas qui est à côté de vous, ça ne vous intéresse même pas. Tellement les gens seront dans le calac, dans l'angoisse. Et, وَحِينَ يَخْرُجُ عُنُقُمْ مِنَ النَّارِ فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ وَيَتَغَيَّبُ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُ ذَلِكَ الْعُنُقُ وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب ووكلت بكل جبار عنيد. فقال فينطوي عليهم ويرمي بهم في غمرات جهنم ولجهنم جسر أدق من الشعر إلى آخر الحديث وأحد من السيف عليه كلاليب وحسن تترى. نبغي نجي ثالثة سيكونستانس ثالثة سيتواسيون lorsqu'il y aura, comment dire, comme une personne, quelque chose qui va sortir, hein, qui va sortir du feu de l'enfer, et il va, on avait expliqué ça il y a quelques temps, qui va se fondre vers les gens, et il va dire, وَكِلْتُ بِسَلَاسَ Allah m'a ordonné de prendre trois personnes, trois catégories de personnes pour les amener dans le Jahannam tout de suite. Première catégorie, celui qui invoque مَنِدَّعَانَ عَلَّا إِلَانَ, celui qui fait le shirk, donc qui invoque d'autres qu'Allah. Également celui qui n'avait pas image sur le jour de la résurrection, et celui qui, des gens qui étaient hautains, des gens qui étaient orgueilleux, qui se sentaient supérieurs, et là, ces créatures-là, ces choses-là vont se fondre sur ces gens, ils vont les jeter dans les profondeurs du Jahannam, qu'Allah nous protège. Donc, dans ces trois circonstances, personne ne s'intéressera à la personne qui est à côté d'elle. Il y a des gens de la hadith qui est à peu près à peu près le même sens. Hein, le prophète sallam dit, hadith de Aïcha d'Anha, Annaha zakarat annar fabakat. Elle est en train de penser le feu de l'enfer, elle s'est mise à pleurer. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma yubkik, oh Aïcha, pourquoi tu pleures? Qultu dakartu an-nar fabakaytu. Elle dit, je pense au feu de Jahannam et ça m'attriste, ça me fait peur, je pleure. Fahal tadhkuruna ahlikum yawm al-qiyamah? Elle dit, oh prophète d'Allah, est-ce que vous vous souviendrez de vos proches le jour de Qiyamah? Le prophète dit, amma fi thalatha mawatin fala yadhkuru ahadun ahada 'inda al-mizan wa 'inda al-kitab wa 'inda as-sirat idha wudi'a bayna dhahri jahannam. Donc de ce riwayat, de cette autre version d'Abu Daoud, la troisième catégorie, troisième circonstance, c'est le prophète dit que c'est au moment de passer sur le pont Sirat. On n'a pas fait encore ça. وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمْ. Et la troisième circonstance, c'est lorsque le pont de Sirat sera visible et que chaque personne devra traverser, la personne ne connaîtra son prochain. Qu'Allah vraiment nous protège. On va s'arrêter, Inch'Allah. Et par la suite, on va essayer de voir comment chaque personne aura le livre, et on va voir le ayat d'Yom Atabiyad Dhoujou, ou Ataswad Dhoujou. Certaines personnes auront le visage lumineux, et certaines personnes auront le visage sombre. Qu'Allah nous protège, Inch'Allah, qu'Allah donne la possibilité encore de continuer ce programme. Allah seul sait de quoi il fait l'avenir. Hein? Quelles peuvent être les circonstances, est-ce qu'on peut, Allah seul sait, Allah fait en sorte qu'on peut continuer. Et ce soir, il n'y a pas besoin de le rappeler, il y a quoi ce soir? Ce soir, il y a un grand bayan à 11h30. Un grand bayan. Donc, il faut. S'il y en a qui regardent, très, chacun son chien. Mais ce qui est important, c'est en ce moment, Fadjal écrit tôt. 5h moins 5, là où Moufia, je ne sais pas ici c'est quelle heure. 5h, pas. Et même si quelqu'un, bon, regarde. Taïb, si quelqu'un a envie de regarder. Bon, ça, on ne va pas dire, on n'a rien à dire là-dessus. Mais il faut penser au Fajr quand même. Hein. Fajr est très tôt, qu'une personne qui a envie de regarder, qu'elle réfléchisse bien. Je regarde, d'accord, mais est-ce que je suis capable de me réveiller Fajr? Si, vous savez, il y a un hadith d'éléments, la Moufia, sur l'islam, sur l'intention, et il dit que une personne, on connaît le hadith de lequel le Prophète dit que Rufiatul Aqlam al-Talab, il y a trois catégories de personnes qui ne sont pas responsables de leurs actions. L'enfant, tant qu'il ne devient pas balir. La personne qui est fou, qu'Allah nous protège, tant qu'elle ne retrouve pas sa raison, et la personne qui dort, tant qu'elle ne se réveille pas. Une personne qui fait une action en dormant, cela, même si c'est une mauvaise action, cela n'est pas considéré comme péché. Et quand on avait vu ça, un de nos stades là-bas, Medina Munawara, nous avait expliqué, il y avait le cas d'une personne en Arabie Saoudite même, un père de famille, très costaud, heureusement très, très portant, et il venait d'avoir, avec son épouse, venait d'avoir un bébé, un petit bébé. Et comme c'est souvent le cas, lorsque l'enfant est il y a quelques jours, ben, la maman prend l'enfant avec elle pour dormir dans le lit. Et il dit, ce papa, dans la nuit, il s'est retourné. Et donc, il a écrasé l'enfant. Et l'enfant est mort asphyxié. Il est mort asphyxié dans la nuit. Et le papa, il se réveille le matin, tout bouleversé, que l'enfant est mort. C'est dans ce cas de figure. Le maslah est ainsi. Est-ce que cette personne est considérée comme coupable? Est-ce qu'elle doit payer le prix du sang? Ou est-ce qu'elle doit dédommager, etc., etc.? Vous voyez? Jamais de la vie. Parce que la personne dormait. Pas du moins une personne dort, elle n'est pas responsable de ses actions. D'accord? Également le hadith, mais ça il faut faire attention. Le hadith, ça c'est pas mettre dans les mains n'importe qui, il faut bien comprendre. C'est le hadith dans lequel il dit que si une personne a le niyat de se réveiller pour faire la salat et qu'elle n'a pas pu se réveiller, on fait comprendre que, j'essaie de peser mes mots, on fait comprendre que cette personne, Inch'Allah, n'aura pas de péché. Si vous êtes sincère, quelqu'un met son réveil pour réveiller à 4h. 4h30. Vraiment, ni être sincère pour faire la salade, à aucun moment de sa tête, il dit parce que je ne me réveille pas demain. Non. Mais il fait qadar Allah, elle n'a pas pu se réveiller, Inch'Allah. On a l'espoir qu'Allah Ta'ala ne considère pas cette personne comme pécheur. Il y a une différence entre quelqu'un qui met son réveil pour se réveiller Fajr et une personne qui délibérément met son réveil 7h. C'est grave ça. Mais il y en a. Qu'Allah nous pardonne, mais même beaucoup de musulmans font comme ça. Ils ne se soucient même pas de Fajr. Pour eux, si ce n'est pas le jour du Eid ou autre chose, ils ne voient pas l'intérêt de ce moment. Vraiment, le degré d'Iman, qu'Allah nous protège. Donc, pour revenir, oui, alors, mais apprendre avec beaucoup de précautions sur le hadith. Maintenant, si une personne, elle va se coucher à 2h du matin, et elle sait qu'en dormant 2h, je ne peux pas me réveiller 5h moins le quart. Il est impossible. Mais là, cette personne, elle est responsable. Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas se réveiller si elle dort à telle heure et la personne dort à 2 heures du matin. D'accord ? Dans ce cas, cette personne est responsable de ses actes. Et elle est responsable du fait qu'elle sait qu'elle va rater Fajr. Donc, c'est un petit rappel parce qu'on a, il y a pas mal de jeunes. Et je sais que même dans le mois de Ramadan, on avait certaines personnes qui ne sont pas là. Et ils nous disaient qu'est-ce qu'il y avait à la Coupe du Monde de rugby. Il y avait cette personne qui venait travailler avec nous. Ils disaient que ce soit en France, en Nouvelle-Zélande, ce soit en France. Je disais, cette personne, regarde pas. J'ai dit à cette personne, j'ai envie de regarder mon France, Nouvelle-Zélande. Qui me parle de ça? J'ai dit que j'ai très envie de regarder. Il y avait le football aussi et tout. Je dis, regarde pas. Par respect pour le mois de Ramadan. Même si en dehors de Ramadan, vous auriez regardé, mais par adab pour ce mois vraiment où il y a les malaïkas qui descendent, ou là, une rahmat d'Allah spécifique. Rahmat d'Allah va descendre, vous êtes devant la télévision, je dis, c'est pas bien. Je dis, c'est pas correct. Puis la personne dit, j'ai pas pu, j'ai regardé. Ça fait la faiblesse des jeunes. Certains jeunes qui ont certaines faiblesses. Donc, il faut peut-être qu'une personne qui est un peu plus stricte, elle va dire, oui, mais il ne faut même pas dire ça, il faut dire qu'il ne faut pas regarder la télé. Oui, mais là, il faut voir tous les cas de figure. Si quelqu'un a un degré de taqwa, que la télé ne rentrera jamais dans sa maison, alhamdoulilah, ça ne veut pas dire que je suis en train de faire comprendre la personne, prend la télé, regarde, et lève, dire, non, si vous avez atteint ce degré, ne reculez pas, jamais d'avis. Mais ça, c'est pour le haut degré de taqwa. Mais on parle un peu de ce qui soit la limite du hors-jeu. Ceux qui vraiment à la limite du hors-jeu, ceux qui ne peuvent pas s'en passer. Mais vraiment, s'ils ne peuvent pas s'en passer, mais qu'ils gardent le fikam de se réveiller pendant. Parce qu'Allah, Ta'ala, moi-même, on peut tawfiq, hein, de comprendre les paroles, qu'Allah donne à tous tawfiq, de comprendre, de faire mal, de propager, et qu'Allah nous protège. Subhanallah, Rabbika Rabbika, c'est un mal. Salamun ala al-mursaleen, alhamdulillah.